Bonjour à tous. Une première en Europe, une dizaine de villes en Italie à l'isolement à cause du coronavirus. L'Italie, pays le plus touché par l'épidémie, avec 100 cas de contamination. Dans un instant, nous serons en ligne avec notre envoyé spécial en Lombardie, Bruce de Galzin. La France se prépare à une épidémie. Nous multiplions le nombre de laboratoires équipés en tests de diagnostic. C'est ce que dit le ministre de la Santé, Olivier Véran. À ce sujet, notre invité, le professeur Bruno Lina, qui est professeur de virologie à l'université de Lyon 1. Et puis nous irons au salon de l'agriculture, rencontre avec un éleveur de bovins de Haute-Saône, confronté à la baisse de ses revenus. La lenteur des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale et l'utilisation éventuelle du 49-3. Le 49-3, c'est une sorte de LBD parlementaire, selon Adrien Quatennens, invité de Questions politiques sur France Inter. À l'étranger, victorieux dans le Nevada, Bernie Sanders consolide sa place de favori des primaires démocrates. À Toulouse, cette nouveauté dans le secteur de l'immobilier, une start-up propose d'essayer une maison ou un appartement avant de l'acheter. Et puis une renaissance, celle de l'équipe de France de rugby qui a battu hier le Pays de Galles dans le tournoi des Six Nations. Fanny Lechevestrier est avec les joueurs du 15 tricolore qui ont fêté leur victoire cette nuit à Cardiff.
France Inter.
Une dizaine de villes dans le nord de l'Italie se sont réveillées ce matin sous haute surveillance. Cela concerne plus de 50 000 personnes, conséquence de la multiplication des cas de coronavirus avec deux décès en Italie, les premiers d'Européens sur le continent. Fermeture des entreprises et des établissements scolaires, annulation d'événements culturels et sportifs. Le gouvernement italien tente de mettre à l'isolement une partie de la Lombardie et de la Vénétie pour freiner l'épidémie. Bruce de Galzin, vous êtes notre correspondant permanent en Italie. Vous vous trouvez là en ce moment en Lombardie. Bonjour Bruce.
Bonjour.
Bruce, des localités sont censées être en quarantaine. Est-ce que vous avez pu le vérifier ?
Eh bien non, en tout cas pas à Casal Pusterlengo, où j'ai pu rentrer sans problème. Dans cette ville de 15 000 habitants, ni les carabiniers ni les pompiers n'ont reçu d'instruction pour interdire l'entrée ou la sortie. Et ils sont pourtant nombreux à se déplacer chez les carabiniers et pour leur demander une autorisation de sortie, car les sanctions sont lourdes, hein, une amende de 600 euros et même de la prison. Pour l'instant donc, aucun barrage ni force de police à l'entrée de la ville. Il faudra sans doute attendre un peu de temps pour mettre en place le périmètre de sécurité. La population n'est pas tombée dans la psychose, même si certains font la queue pour acheter à manger. Il y a moins de monde que d'habitude dans les rues, car les bars, restaurants, les marchés, tous les lieux publics exceptés, quelques supermarchés sont fermés. Certains portent des masques, d'autres pas, car il n'y en a tout simplement plus dans les pharmacies.
Bruce, quel est actuellement le bilan de l'épidémie en Italie ?
Eh bien, dans toute l'Italie, plus de 130 cas, et pour la seule région de Lombardie, 89 cas suspects. Et car attention, ce matin, il y avait 26 personnes en soins intensifs, d'autres avec le virus déclaré mais stable, et d'autres encore devaient être une nouvelle fois contrôlées. Et c'est d'ailleurs ce qui est frappant. Pourquoi autant de cas en si peu de temps ? Eh bien, selon le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, c'est précisément parce que les contrôles sont rigoureux. Autrement dit, plus il y aurait de contrôles, plus il y aurait de cas détectés. C'est la réponse des autorités.
Bruce de Galzin, en direct en Lombardie, où on tente de mettre en place des mesures d'isolement. En Israël, près de 200 écoliers ont été appelés à rester cloîtrés chez eux pendant 14 jours après avoir été en contact avec des touristes sud-coréens ayant contracté le coronavirus. L'Iran annonce 15 nouveaux cas et au total 8 morts. La Corée du Sud a rehaussé au plus haut son niveau d'alerte. Le nombre de malades dans le pays s'est accru aujourd'hui de 169 cas, ce qui fait 602 personnes contaminées par le virus. Au Japon, un troisième passager du paquebot Diamond Princess est mort, paquebot placé en quarantaine à Yokohama. Et puis à l'instant, le président chinois Xi Jinping vient de déclarer que le coronavirus est la plus grave urgence sanitaire en Chine depuis 1949. Au téléphone, en ligne avec nous, le professeur Bruno Lina. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de virologie à l'université de Lyon 1. Que pensez-vous de la stratégie en Italie actuellement des villes en quarantaine, 11 localités qui devraient être isolées pour lutter contre ce coronavirus ?
C'est un des éléments de réponse qui peut être utile, parce que si on imagine qu'il y a un foyer qui a commencé à s'installer dans ces villes, le fait de mettre ces villes en isolement a pour objectif d'éviter que ce virus sorte de cette région, si tant est qu'il y est encore. Et puis derrière, c'est aussi une façon de surveiller la population et de dépister rapidement les personnes qui sont infectées. Donc on voit que c'est en fait un double objectif, qui est un objectif à la fois sanitaire pour les patients qui sont identifiés dans ces régions comme étant potentiellement à risque d'avoir été infectés. Donc on va pouvoir les suivre de plus près. Et la deuxième chose, c'est en confinant ces régions, ça évite la dissémination de ce virus par des personnes qui pourraient éventuellement le porter pendant qu'ils l'incubent et qui développent la maladie après, ce qui pourrait entraîner une extension de l'épidémie hors de cette zone.
Professeur Lina, le ministre de la Santé chez nous, Olivier Véran, a demandé la multiplication du nombre de laboratoires équipés en tests de diagnostic. C'est une nécessité ?
Oui, c'est important parce que jusqu'à présent, il n'y avait qu'un petit nombre de laboratoires qui étaient en capacité de faire ce diagnostic. Vous savez que ce virus, on ne le connaissait pas il y a 2 mois et demi. Et là, après de nombreux travaux faits par à la fois des équipes françaises, notamment l'Institut Pasteur, et puis des équipes étrangères, toute une série de procédures diagnostiques ont été mises en place. On a appris quels étaient les prélèvements qu'il fallait faire, quels étaient ceux qui parlaient le mieux pour trouver des patients. Et ensuite, on a été en capacité de mettre en œuvre un outil diagnostique sensible, c'est-à-dire qu'on sait que lorsque le patient est négatif, il n'est pas infecté. Et à partir de là, sur un certain nombre de structures hospitalières et de laboratoires de virologie hospitaliers, on a été en capacité de diffuser cette procédure diagnostique, c'est en cours, et je pense que d'ici le milieu de la semaine, pratiquement une quarantaine de laboratoires seront capables de faire ce diagnostic. Donc ça fait un circuit court entre le moment où on suspecte un individu et le moment où on rend le diagnostic. C'est important parce que si la personne n'est pas infectée, il faut qu'on libère la place qu'elle occupe à l'hôpital. Et si elle l'est, il faut que tout de suite on mette en place, premièrement, les mesures d'isolement pour éviter une transmission, que le personnel soignant soit informé aussi, renforce les mesures de précaution pour eux. Et la deuxième chose, qu'on fasse ce qu'on appelle un contact tracing, c'est-à-dire d'identifier quelles sont les personnes qui étaient au contact de cette personne lorsqu'elle était symptomatiques, de façon à voir si eux aussi se mettent à développer des symptômes. Donc
professeur,
c'est vraiment essayer de trouver des foyers qui commencent à se développer avant qu'ils se mettent en place.
Professeur Lina, le ministre de la Santé dit aussi, nous poursuivons également l'équipement en masques. Alors selon vous, quelle quantité est nécessaire ? Quand faudra-t-il les utiliser ? Et ceux qui nous écoutent là actuellement, doivent-ils par précaution acheter des masques ?
Alors, ces masques, en fait, c'est le signe d'un certain nombre de mesures qu'il convient de prendre. Les masques, c'est en fait les mesures d'hygiène et les mesures barrières. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire qu'il faut que, collectivement, chacun d'entre nous prenne la mesure qu'il y a le risque potentiel d'être confronté à un virus qui circule, qui est un virus à transmission aérienne, et que ces virus à transmission aérienne, on sait qu'il y a 2 voies qui sont les plus fréquemment utilisées par ces virus pour se transmettre d'un individu à l'autre, c'est le serrage des mains, quand on a les mains sales parce qu'on a éternué dedans, et les projections respiratoires. Donc une personne qui est malade, eh bien, il est très important que lorsqu'elle tousse, qu'elle mette un masque chirurgical pour éviter de projeter ces virus vers les personnes à côté de qui elle est, et qu'elle s'identifie pour qu'on puisse éventuellement l'isoler. La deuxième chose, c'est que tout le monde devrait se laver les mains avec des solutions hydroalcooliques de façon régulière, parce que ça va freiner la chaîne de transmission.
Mais il faut procurer des masques.
Alors, les masques chirurgicaux, j'en viens, en fait, c'est surtout des masques anti-projection. Si on veut se protéger soit vis-à-vis d'autres projections, c'est pas forcément les masques chirurgicaux, mais d'autres masques qu'il faut, mais qui sont des masques beaucoup plus difficiles à porter, ce qu'on appelle des dispositifs de protection respiratoire. C'est eux qui filtrent l'air que vous respirez. Alors, porter un masque, ça peut rassurer. C'est certainement partiellement utile, parce que ça permet d'avoir intrinsèquement dans sa tête le fait qu'on prend des mesures pour éviter de lutter contre la diffusion du virus, mais ne pas avoir un masque ne signifie pas forcément qu'on est exposé à un risque majeur.
Merci professeur Bruno Lina au téléphone avec nous, professeur de virologie à l'université de Lyon 1.
France Inter, le journal de 13h, Pierre Veille.
Après 6 jours de débats, toujours au ralenti sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté hier 2 premiers amendements. Les députés vont poursuivre aujourd'hui l'examen de l'article 1er avec là encore des milliers d'amendements à débattre. Clairement, les discussions s'embourbent. Le gouvernement va-t-il finalement utiliser l'article 49.3, c'est-à-dire plus de débats parlementaires? Un texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est votée. Face à cette hypothèse de 49.3, écoutez ce que disait ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur BFM TV.
Cette majorité et ce gouvernement n'ont jamais souhaité utiliser le 49.3. Et même encore aujourd'hui, nous ne souhaitons pas l'utiliser. Donc si c'est possible, c'est mieux de ne pas l'utiliser. Pour ça, il faut un débat normal et pas de l'obstruction parlementaire. Donc, si vous voulez, quand même, la situation, elle est évidente. On a des gens qui essayent de saboter un débat et qui après vont se plaindre des conséquences du sabotage qu'ils ont fait. Donc, il y a clairement des responsables de la situation, ils sont très clairement identifiables, c'est notamment LFI et le Parti communiste, et tous ceux qui en réalité n'aiment pas les débats de fond et ont envie d'exciter le débat public à partir d'obstructions sans intérêt. Même si...
Le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, invité de questions politiques avec Ali Badou il y a quelques minutes sur France Inter, a lui aussi évoqué cet article 49.3.
Le 49.3, pour nous, c'est une sorte de LBD parlementaire. Hein. C'est le bazooka contre le débat à l'Assemblée nationale.
Mais c'est une victoire politique pour vous. C'est une victoire politique.
Absolument
pour vous.
Pas. Moi, je préférerais qu'on prenne le temps nécessaire, plusieurs semaines s'il le faut, pour étudier le texte dans son ensemble. Ou alors, et c'est toujours le mot d'ordre préférentiel, retrait au référendum. Car je pense que désormais, nous avons suffisamment éclairé l'opinion sur ce que contient ce texte pour pouvoir assumer le fait d'avoir une campagne dont la question référendaire, d'ailleurs, pourrait très bien être « Êtes-vous pour ou contre le projet d'Emmanuel Macron de retraite par points ?» Moi, j'y suis prêt. Et lui, l'est-il ? Parce qu'il est de plus en plus isolé. Je crains, effectivement, je suppose, que le 49.3, en réalité, servira au gouvernement pour masquer le cataclysme en cours, l'érosion en cours de ce groupe majoritaire où on a vu 15 démissions depuis le début. Je crois qu'ils ont peur d'assumer un vote à l'Assemblée nationale où il y aurait des frondeurs dans leur propre camp.
Adrien Quatennens, député de la France Insoumise avec Ali Badou et Karine Bécart. À l'étranger, aux États-Unis, Bernie Sanders a largement remporté hier le vote dans le Nevada pour la primaire démocrate avec 46% des suffrages, selon des résultats encore partiels. L'ancien vice-président Joe Biden est en deuxième place à 19% et Pete Buttigieg troisième à 15%. Éric Bégala, bonjour.
Bonjour Pierre.
À 78 ans, Bernie Sanders est désormais en position plutôt favorable pour obtenir l'investiture démocrate et affronter Donald Trump en novembre, même si la course est encore longue.
Oui, c'est vrai, mais le Nevada, c'était quand même une étape importante dans cette course à l'investiture démocrate, parce qu'elle donnait la mesure de la capacité des différents candidats à séduire les électeurs issus des minorités. Dans le Nevada, 40% de la population est considérée comme non-blanche, avec un tiers d'hispaniques environ, souvent des employés de l'hôtellerie, de la restauration ou de l'industrie du jeu. Las Vegas est la capitale de l'État du Nevada. Et c'est auprès de cette population-là que Bernie Sanders a fait carton plein hier soir. Selon une enquête de l'Edison Media Research, réalisée à l'entrée des bureaux de vote, Sanders a recueilli 51% du vote latino. Les promesses du sénateur du Vermont d'une couverture santé universelle s'il devenait président ont manifestement séduit. Bernie Sanders fait donc désormais la course en tête, ayant remporté 2 des 3 premiers scrutins de ses primaires et devra à nouveau séduire un électorat minoritaire, les Noirs, lors de la prochaine joute en Caroline du Sud, le 29 février. Et puis bien sûr, il y aura le Super Tuesday du 3 mars. 14 États se prononceront de concert sur le candidat démocrate. C'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'on aura une vue beaucoup plus clair quant à l'identité du champion démocrate qui affrontera Donald Trump en novembre.
Éric Bégala sur cette victoire de Bernie Sanders au Nevada. Retour en France, le salon de l'agriculture s'est ouvert hier à Paris, porte de Versailles. Plus de 900 exposants ont fait le déplacement, notamment des agriculteurs franc-comtois. C'est le cas de Pierre Besançon, éleveur bovin à Liévance, en Haute-Saône. Depuis 7 ans qu'il vient à Paris pour montrer ses bêtes, et bien ses conditions de vie ne se sont pas améliorées. Cédric Hermel l'a rencontré.
Il a beau être au centre de l'attention en emmenant sa vache montbéliarde vers le lieu du concours, Pierre Besançon a l'impression d'être oublié par les pouvoirs publics et notamment par Emmanuel Macron.
Ils sont pas dans le coup, ils y connaissent rien. C'est sûr qu'on est oublié.
Entre le manque de reconnaissance et la baisse de ses revenus, Pierre Besançon peine à faire tourner sa ferme de Liévan qu'il gère depuis 40 ans. Il a pourtant 80 bêtes, une exploitation normale selon lui. Mais les prix du lait n'ont pas suivi. Résultat, c'est son niveau de vie qui a baissé.
En 1985, le litre de lait était payé 36 centimes d'euros. Aujourd'hui, il est à 33 centimes d'euros. Voici 15 ans, on arrivait à vivre avec 200 000 litres de lait. 230 000 litres de lait, puisque c'était nos références. Aujourd'hui, on a 800 000 litres de lait. Quand on a payé ce qu'on doit, on est content, et en faisant très attention.
Des conditions de vie précaires malgré les aides financières. La France est le pays européen qui reçoit le plus de subventions. Bruxelles verse 6,5 milliards d'euros par an, mais aux soucis financiers, il estime qu'un autre ennui s'est ajouté depuis quelques années.
Les organisations un peu vegan, un peu L214, tous ces gens-là. C'est dommage parce que on est dénigré tous les jours et c'est triste d'en arriver là aujourd'hui.
Pierre Besançon a convaincu son fils de reprendre la ferme, ce qui n'est pas le cas de tous ses collègues.
Un reportage de Cédric Hermel au Salon de l'Agriculture à Paris, porte de Versailles. Des dizaines de pompiers luttaient encore ce matin contre l'incendie, plutôt inhabituel en cette saison, incendie qui ravage la commune de Meyresse dans le sud Ardèche depuis hier après-midi. Objectif, éviter la reprise des flammes, une action difficile. Le feu s'est propagé sur les reliefs dans des secteurs difficiles d'accès, mais il est sous contrôle et ne menace aucune habitation. 90 hectares sont déjà partis en fumée. Le sous-préfet de l'Ardèche, Bernard Roudil, fait le point sur les opérations au micro de Claire Léis de France Bleu Drôme Ardèche.
Le feu est maîtrisé à l'heure actuelle où nous parlons. Il y a eu au plus fort de cet incendie à peu près 110 pompiers d'engagés. Pour l'instant, il y en a une cinquantaine qui restent pour surveiller le feu et surtout inonder les lisières pour éviter, s'il y a du vent, ce qui est un peu le cas, que ça puisse redémarrer. Et il y a une reconnaissance qui est en train de se faire avec un hélicoptère de la sécurité civile qui est venu de Montpellier. C'est tout à fait exceptionnel, d'autant que le week-end dernier, il y a eu 20 hectares. Donc là, 90, on dépasse les 100 hectares au mois de février. Donc c'est très inédit pour l'Ardèche.
Et comment vous expliquez ça?
Le feu ne serait pas parti tout seul. C'est à minima des écobuages qui ont été mal maîtrisés. C'est en fait souvent des agriculteurs ou quelquefois des particuliers qui font brûler des végétaux. L'utilisation du feu est très réglementée et on ne peut pas faire comme ça des écobuages à tout moment.
Et voici quelques mots d'anglais. Try and buy. Je traduis essayer et acheter. Cette formule, c'est la raison d'être d'une start-up toulousaine qui propose d'essayer votre maison ou votre appartement avant de les acheter. Cette idée originale a déjà séduit plus de 130 agences immobilières en France. Elles vendent ainsi cette prestation en plus de la visite traditionnelle. Reportage Toulouse à Toulouse. Stéphane Iglesis.
Le dicton dit que l'essayer, c'est l'adopter. C'est un peu l'idée de cette petite entreprise qui veut vous louer votre future maison ou appartement pour les tester avant d'acheter. Thomas Herr, cofondateur de l'entreprise, a eu cette idée chez des copains.
J'étais chez des amis à la montagne et au petit déjeuner, j'ai fait une petite blague en disant « c'est bon, je vous achète le bien ». Et après, je me suis dit « c'est vrai qu'on a énormément de doutes lors d'un achat immobilier ». Pour moi, c'est nécessaire de pouvoir y vivre pendant 1 à 5 nuits pour pouvoir proposer une offre plus chère, acheter plus rapidement, parce que le doute lors d'un achat immobilier, c'est quand même considérable.
Essayer une maison ou un appartement, ça peut déclencher l'achat. Témoignage de François Latteux, agent immobilier dans la région toulousaine.
Il y a quelques mois maintenant, on avait eu beaucoup de difficultés à vendre une très belle maison dans le secteur de Villeneuve-Tolosane à plus de 500 000 euros. Il y avait des doutes sur l'environnement, des doutes également peut-être sur sa praticité, sur tels et tels aspects. Un jeune couple, on testait le bien en tant que tel. Puis ça a permis effectivement aux acquéreurs potentiels de lever toute ambiguïté. Ce type de prestations-là peuvent effectivement faire basculer l'acquéreur dans le bon sens.
Pour cette maison à 500 000 euros, il fallait quand même débourser 200 euros pour y passer la nuit. De quoi quand même y réfléchir à deux fois. Toulouse, Stéphane Iglesis, France Inter.
Le sport, le rugby, le mot n'est pas trop fort. Exploit. Hier, en battant à Cardiff le Pays de Galles 27-23, l'équipe de France a réalisé un exploit dans le tournoi Destination. Un 15 de France si souvent critiqué ces dernières années, des années de frustration. Et là, après ce match, que de louanges pour la qualité du jeu, le courage, la constance des joueurs. Le Grand Chelem est à la portée des Français grâce à la renaissance d'une équipe. À Cardiff, Fanny Lechevestrier.
Ce matin, à l'hôtel du 15 de France, vous vous en doutez, les sourires étaient toujours accrochés au visage, les yeux juste un peu plus petits que la veille. Tout ce qu'il y a de plus normal après un succès historique célébré jusqu'aux premières lueurs du jour. Pour autant, le manager Raphaël Ibanez se refuse à parler de renaissance.
Parler de renaissance, c'est un peu péjoratif. Je pense que juste le match d'hier, en fait, a effacé en un match 10 années de frustration, voilà, de frustration collective.
Derrière tout cela, l'envie aussi de ne pas froisser les anciens. Le nouveau sélectionneur Fabien Galthié préfère ainsi employer le terme de cycle.
Nous, ça fait quasiment 30 ans qu'on vit plus ou moins à l'intérieur ou à côté de l'équipe de France. Donc il y a des cycles comme ça, il y a des cycles. L'équipe de France, c'est c'est très court, c'est des moments de vie très courts. Et après, bien sûr, on a une vision, on a une planification, on voit bien ce qui va arriver.
Un grand chelem, 10 ans après le précédent. Là encore, les deux mots sont tabous, du moins en public, sourit le talonneur Camicha.
Bien sûr que tout le monde rêve de ça et c'est un objectif. Je le dis, mais devant les journalistes, il faut se méfier un peu.
Des rires, des ambitions, des rêves partagés avec un public retrouvé, n'en déplaise aux bleus, l'histoire ressemble tout de même beaucoup à un retour à la vie, la définition de la Renaissance. À Cardiff, Fanny Lechevestrier, France Inter.
C'est la fin de ce journal. Dans quelques secondes, Denis Chessou.